France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, un quatuor de dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, à Kiev aujourd'hui pour défendre un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours complet à partir de lundi. Un sommet donc pour mettre la pression sur la Russie. Nous serons à Kiev. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'engrenage militaire entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad a décidé ce matin de fermer son espace aérien. Nous serons en Catalogne, où un nuage toxique a obligé ce matin plus de 160 000 personnes à rester confinées. En Haute-Savoie, un sapeur-pompier volontaire est entre la vie et la mort. Il aurait été volontairement renversé par une voiture qui effectuait des rodéos. La mort du fondateur des éditions de La Martinière, Hervé de La Martinière, avait 78 ans. Une maison d'édition consacrée aux beaux livres, nous rappellera Ilana Moriousef. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin pour sauver un estaminet promis à la disparition dans 2 mois près de Lille, dans un quartier populaire. Les clients ne s'en remettent pas.
Bah oui, c'est triste. Des endroits pareils, c'est précieux.
Forcément que c'est précieux. Les estaminets, ça disparaît, il n'y en a plus.
Et après ce journal Secret d'Info, magazine d'investigation, Benoît Colombat, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons vous faire découvrir les coulisses d'un secteur économique très lucratif, celui des ascenseurs. C'est le premier moyen de transport en France, 100 millions de trajets en moyenne par jour, mais avec aussi de nombreux incidents et parfois même des morts. Plus d'1,5 million d'ascenseurs tombent en panne chaque année.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, ça va se gâter sur l'ouest du pays ?
Oui, avec des orages entre la Bretagne et les Pyrénées, ce sera plus calme et encore ensoleillé pour les autres.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. France Inter. C'est donc l'une des photos du jour, le retour de l'Europe dans le conflit ukrainien. Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le couple Zelensky unis donc au cœur de Kiev ce matin sur la place Maïdan. La coalition des volontaires propose une trêve de 30 jours complète à partir de lundi, sous peine de nouvelles sanctions massives contre la Russie. Emmanuel Macron appelle donc à des discussions directes aussi entre Kiev et Moscou. Et pour le président français, on assiste en ce moment à un tournant dans ce conflit. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
En duplex de Kiev, où vous suivez cette délégation de pays européens, cette coalition des volontaires se joint aux États-Unis pour hausser le ton donc contre le Kremlin.
Il y aura un durcissement massif des sanctions si la Russie rejette ce cessez-le-feu de 30 jours. Voici les mots du chancelier allemand à son arrivée à Kiev tout à l'heure, ajoutant « Nous sommes en accord avec le gouvernement américain ». Les Européens veulent profiter de l'impatience de Washington pour pousser Vladimir Poutine dans ses retranchements. Sauf qu'avant même la fin de ce sommet, le porte-parole du Kremlin a posé des conditions pour ce cessez-le-feu, notamment l'arrêt des livraisons d'armes occidentales, une nouvelle manœuvre de diversion aux yeux d'Emmanuel Macron. Ce nouveau train de sanctions sera-t-il suffisant pour faire taire les armes ? Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer et Emmanuel Macron veulent aujourd'hui ici afficher leur détermination et leur solidarité à l'égard des Ukrainiens. Image très forte ce matin des 5 dirigeants sous le soleil de la place Maïdan en silence devant un parterre de milliers de drapeaux ukrainiens et de dizaines de portraits de soldats tués au front, tous plus jeunes les uns que les autres. Mettre des visages sur ces discussions qui semblent se répéter à l'infini pour ne pas oublier l'objectif final, la paix.
Un cessez-le-feu donc de 30 jours complet et inconditionnel à partir de lundi, c'est ce que dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. C'était Maxence Lambrecq en duplex de Kiev avec Jérémy Thuil pour des moyens techniques. Comment la population ukrainienne reçoit-elle cette perspective de cessez-le-feu, perspective encore bien hypothétique? Nous rejoignons notre envoyé spécial dans l'est de l'Ukraine, dans le centre de l'Ukraine. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Poltava. Les Ukrainiens que vous avez rencontrés ce matin sont plutôt sceptiques encore.
Oui, leur première réaction, c'est souvent celle-ci.
On a entendu parler tellement de fois du cessez-le-feu que maintenant, je n'y crois plus.
Et s'ils apprécient l'engagement des dirigeants européens, les Ukrainiens ne les jugent pas pour autant capables de contraindre Moscou.
Un jour, oui, ça va se terminer, mais pas maintenant. Pas avant l'an prochain, je pense.
Rencontrée devant un supermarché, Natalia, elle, met beaucoup d'espoir dans cette initiative diplomatique collective. Deux fois déjà déplacée par la guerre, elle ne veut qu'une chose, que les armes se taisent pour pouvoir enfin rentrer chez elle.
En ce moment, c'est pas possible. Il y a trop de tirs et de bombardements. C'est pour ça que je suis là avec mon fils, pour être un peu plus en sécurité.
Et vous lui parlez à lui d'un possible cessez-le-feu ?
Oui, on en parle, il sait tout. D'autant que son père est militaire. Lui aussi, il attend un cessez-le-feu pour qu'on soit réunis tous ensemble à la maison.
Natalia s'est promis d'allumer la télévision tout à l'heure pour suivre le compte-rendu des médias ukrainiens. Elle espère une autre annonce forte des délégations européennes.
Isabelle Labéry en direct de Poltava dans le centre de l'Ukraine avec les moyens techniques de Fabien Gosset, avec également Yachar Fasilov. L'Inde et le Pakistan sont-ils déjà entrés en guerre? Ce serait la quatrième de leur histoire. Les États-Unis proposent une médiation. La Chine également appelle ce matin à la désescalade. Mais les deux puissances nucléaires restent sourdes aux appels de la communauté internationale. Sonia Ghezali, vous êtes à Islamabad. Le Pakistan a décidé ce matin la fermeture de son espace aérien. Le Pakistan lance en même temps son opération Mur de plomb.
Elle a été lancée après que des missiles ont été tirés contre des bases aériennes très tôt ce samedi matin. Les bases de Shorhot, de Murid et de Nurhan. Cette dernière se trouve à 10 km d'Islamabad, la capitale, où les habitants ont d'ailleurs entendu de grosses explosions aux environs de 3h du matin. Explosions rapportées également hier soir au-dessus de la ville de Lahore, à Karachi également, la mégapole du sud du pays. Il s'agissait, semble-t-il, de drones interceptés, comme l'auraient d'ailleurs été la plupart des missiles lancés par l'Inde au Pakistan. C'est ce qu'a affirment les autorités pakistanaises. Depuis, les frappes de missiles, les tirs d'artillerie et les attaques de drones se sont succédées entre les deux voisins. Le Pakistan dit avoir frappé plusieurs sites militaires en Inde au cours de ces dernières heures. Les pays du G7 ont appelé hier l'Inde et le Pakistan à la plus grande retenue. Il y a eu des tentatives de médiation de certains pays comme la Chine ou encore les États-Unis. Mais jusque-là, la diplomatie a échoué. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
Attaques de drones donc, tirs d'artillerie, frappes de missiles. Les deux puissances nucléaires, Inde et Pakistan, se rendent coup pour coup, sourdes donc aux appels de médiation. L'implication de la communauté internationale ne serait pour l'instant pas à la hauteur des enjeux. C'est ce que pense cette journaliste. Elle s'appelle Arifa Noor, éditorialiste et essayiste pakistanaise. Elle est jointe par Noé Pignède.
The situation of standoff between India and Pakistan escalating is rather worrisome as further.
L'escalade entre l'Inde et le Pakistan est de plus en plus inquiétante car elle pourrait mener à des erreurs de calcul entre les deux puissances nucléaires. Et ce qui rend la situation encore plus critique, c'est que la communauté internationale et particulièrement les États-Unis, qui par le passé ont joué un rôle majeur dans la désescalade entre les deux pays, ne semblent pas vraiment en mesure de le faire, ni même forcément vouloir jouer ce rôle. Pendant ce temps, les missiles et les attaques de drones sur les villes continuent et l'Inde menace toujours de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan, ce qui constitue pour lui une menace existentielle.
À propos recueilli par Noé Pignet. De l'actualité à l'étranger, c'est aussi ce nuage toxique en Espagne. Il a obligé ce matin plus de 160 000 Catalans à rester confinés. Nuage de chlore entre Barcelone et Tarragone, causé par un incendie tôt ce matin dans un dépôt industriel. Confinement en grande partie levé, Pierre Chaperon.
Le confinement aura duré près de 7 heures. Après l'incendie dans une usine de produits de piscine à Vilanova y El Geltrú, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Barcelone, un important nuage de chlore s'était formé dans un périmètre entre la capitale de la Catalogne et la ville de Tarragone. Entre 150 000 et 160 000 personnes avaient été averties sur leur téléphone portable aux alentours de 5h30 du matin pour rester chez eux. Portes et fenêtres fermées, transport public à l'arrêt. Si la majorité des localités ont été déconfinées, des demandes de précaution ont été demandées dans les villes de Vilanova et Roquetes. Aucune victime n'est à déplorer dans un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 2h du matin. Si une enquête est en cours, le propriétaire des lieux de l'usine de produits de piscine avançait dans les médias locaux que l'explosion d'une batterie de lithium pouvait être une des pistes à l'origine du feu. Madrid, Pierre Chaperon, RFI pour France Inter.
Et pour refermer cette page à l'étranger, retenez qu'aux États-Unis, voilà un Un répit pour les fonctionnaires. Une juge américaine de Californie a temporairement empêché plusieurs grandes agences fédérales de procéder au licenciement massif d'agents publics. Ces licenciements qui avaient été ordonnés en février par Donald Trump.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
En Haute-Savoie, un sapeur-pompier volontaire est entre la vie et la mort, grièvement blessé, près de la caserne des Vian-les-Bains. Selon une source proche des pompiers, la victime a été volontairement renversée par une voiture qui effectuait des rodéos à proximité. Alexandra Lagarde.
Les faits se déroulent près de la caserne de secours des Vian-les-Bains au petit matin, alors qu'un rodéo urbain est en cours. Plusieurs pompiers sortent voir ce qui se passe et c'est là que l'un d'eux est violemment percuté par un automobiliste. Grièvement blessé, son pronostic vital est engagé selon la préfecture de la Haute-Savoie, qui précise par ailleurs que le conducteur a été interpellé de son côté par la police. Ce drame intervient dans un contexte plus que tendu. Il y a une semaine, jour pour jour, samedi dernier, un élu avait été blessé alors qu'il tentait de mettre fin à un rodéo urbain près de Libourne en Gironde. Hier encore, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, adressait une circulaire aux procureurs de la République pour leur demander de sévir, je cite, « contre le fléau des rodéos urbains ».
Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rendra sur place à Évian-les-Bains cet après-midi. Voilà un projet vieux de plus de 30 ans, mais qui continue d'être controversé, à l'instar du dossier de l'A69. On parle cette fois de l'A412, un tronçon de 16 km en Haute-Savoie pour relier Machilly à Thonon-les-Bains. Les travaux doivent commencer l'an prochain. L'argument, c'est de désenclaver ce territoire, mais l'opposition locale ne l'entend pas de cette oreille. Et sur place aujourd'hui, eh bien, des écologistes font cause commune avec des agriculteurs contre cette future A412. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Eric.
Vous êtes à Périgné, sur le tracé de cette future autoroute, là où convergent en ce moment les manifestants.
Oui, de Genève à Thonon, l'A412, non, crapaud contre facho, du reblochon, pas du goudron, quelques-uns des slogans hostiles à ce tronçon de 16 km que rejette Caroline Maraîchère à Saint-Julien en Genevois.
Il y a une voie de chemin de fer qui est déjà existante. La biodiversité est en danger, le monde se meurt. Mais non, on va encore bétonner, enlever des terres agricoles et on est en train de tuer le monde. On ne peut pas ne rien faire, c'est pas possible.
Pour les opposants, le projet va condamner 150 hectares de terres agricoles. David Duronzière cultive des céréales sur le tracé de l'autoroute.
Ça va nous ramener encore plus de monde, plus de béton et plus d'expropriation agricole. C'est pour l'immobilier, ceux qui veulent de l'argent. Puis il n'y aura plus de bon fourrage et on ne pourra plus faire du bon reblochon, du bon abondance comme aujourd'hui. Hein. C'est des très très bonnes terres. On voit disparition, malheureusement.
Rico habite à Machilly, lui est favorable à l'autoroute.
Le quotidien ici, c'est qu'à partir de 17h, si vous êtes au rond-point à Machilly, que vous devez aller à Thonon, eh ben vous allez mettre 2 heures de temps, parce que tout est bouché. C'est pas que je suis pour, c'est que c'est une question d'intelligence.
On déposera un recours dès que la préfète aura donné l'autorisation, promet un organisateur qui se rassure. Après la 69 retoquée à Toulouse, ils n'oseront pas démarrer les travaux.
Christophe Vincent, donc en direct sur le tracé du projet de cette future autoroute A412. Dans le nord de la France, le maire de l'Homme, Olivier Carmel, va déposer plainte contre X lundi pour alerter sur la pollution des sols sur sa commune. Des analyses réalisées par la municipalité dans une quinzaine de jardins révèlent des taux de polluants plus élevés que la moyenne et des riverains mettent en cause l'usine d'aluminium toute proche, Refinal. Il avait fondé les éditions La Martinière en 1992. Hervé de La Martinière est mort, il avait 78 ans. Sa maison d'édition est consacrée aux beaux livres, aux livres illustrés de Yann Arthus Bertrand notamment. Bonjour Ilana Moriousef.
Bonjour.
Hervé de La Martinière était donc une grande figure de l'édition.
Une figure importante, pas tant par ses découvertes littéraires que par ses réussites commerciales et son intuition. Entré dans l'édition à l'âge de 25 ans, il devient successivement directeur commercial de plusieurs grandes maisons, notamment Fayard et Grasset. En 92, il crée sa propre maison, les éditions de La Martinière, spécialisée dans les beaux livres et les livres illustrés. Sa réussite la plus spectaculaire sera La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand en 99, un format auquel pas grand monde ne croyait et qui devient un succès planétaire. 3 millions et 3,5 millions d'exemplaires vendus. Ses succès lui permettent plus tard de racheter les éditions du Seuil. Pugnace, il lance une action en justice contre Google qui numérisait massivement les livres sans autorisation des éditeurs. Mais le groupe souffre. En 2016, Hervé de la Martinière se met sous le parapluie du groupe Média Participation. Pour autant, son flair ne l'abandonne pas. C'est lui qui a publié la série des faits maison du chef Cyril Lignac, autre grand succès populaire.
Merci Ilana Moriousef. Le Premier ministre François Bayrou est attendu à Brest cet après-midi. Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. On parle plus souvent de Nantes ou de Bordeaux, mais Brest aussi a joué un rôle dans ce commerce triangulaire du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la cérémonie aura lieu à Brest au pied de la sculpture Mémoire, sculpture inaugurée il y a 10 ans jour pour jour. À Brest, Nicolas Olivier.
Monumental, le totem d'acier de 10 mètres de hauteur contemple la rade de Brest.
Deux masques géants, un qui regarde l'Europe, l'autre qui regarde les 4 autres continents.
Max Relouza, président de l'association Mémoire des Esclavages, s'est battu pendant plus de 15 ans pour ériger cette sculpture. Alors aujourd'hui est un grand jour.
Immense honneur, immense reconnaissance de cette sculpture Mémoire dédiée aux victimes de tous les esclavages. Je souhaite que ce soit un moment festif de rencontre, d'échange. Parce qu'un mémorial, ce n'est pas un tombeau.
L'œuvre rappelle que Brest a joué un rôle dans la traite négrière. Le maire François Cuyandre.
Comme toutes les villes portuaires, Brest a aussi eu un rapport avec l'esclavage. La Recouvance, d'ailleurs, le bateau bien connu à Brest, était un bateau militaire qui était chargé de lutter contre les trafics d'esclaves. Enfin, l'original de la Recouvance. Et cette statue a une symbolique particulièrement forte pour notre ville.
À 80 ans, Max Relouza intervient régulièrement dans les collèges et les lycées pour transmettre aux jeunes.
Il faut qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé, mais qu'ils regardent vers l'avenir et éviter qu'on ait des souffrances qui existent encore dans le monde.
Son rêve, ériger un monument similaire à Fort-de-France, sa ville natale.
Reportage ici, Braise Isel de Nicolas Olivier. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Nous partons à Oisem, quartier populaire de Lille, pour une cagnotte en ligne. Sauvons au cheval blanc. Le cheval blanc, c'est un estaminet placé en redressement judiciaire en février. Il faut dire que la propriétaire Monique Leroux, 72 ans, rebaptisée Momo, n'a pas payé toutes ses charges et elle le regrette. Elle souhaite même rembourser, sauf que c'est impossible. Alors pour sauver le cheval blanc, il faut trouver 140 000 euros avant le 9 juillet, date butoir du tribunal, avant liquidation. On entendra demain la propriétaire de l'estaminet. D'abord les réactions des clients in situ dans l'ambiance chaleureuse du cheval blanc.
Ils ont récolté 13 385 euros, il en manque 126 615, mais on y croit, disent-ils en positive, comme la doyenne qui s'installe avec son déambulateur.
Elle vient tous les dimanches, Janine. Installe-toi, ma chérie, tu passes par ici. Passe par ici. Viens, ma chérie.
Contre le haut-parleur.
Ouais.
Attends,
je peux me permettre de vous demander votre âge?
Bah ouais, 9 et 9.
Qu'est-ce que vous aimez ici au Cheval Blanc?
Il y a la musique, tous les vieux morceaux d'antan. On n'a pas tous les jours 20 ans. C'est tous les vieilles chansons. Et je chante avec eux.
Quand vous avez appris que ça risquait de fermer, ouais, ça vous a fait quoi?
Ça m'a fait drôle aussi. J'aurais mal à mon cœur qu'elle soit bon parce que j'aime bien Monique.
Les deux terrines! Personne n'écoute Jackie!
Momo!
Oui!
Ça vous fait quoi de voir cette sale comble?
Ben, je suis heureuse! Faut couper sa viande à Janine. Hein. Ouais. Écoute, c'est vraiment un bonheur parce que voir les gens qui viennent nous soutenir, ça me touche vraiment.
Ah, quand Monique ne parle plus.
Bon, allez, je vous laisse travailler.
Ouais! S'il vous plaît, pour Jackie!
Merci beaucoup!
Du pain!
Ah, les musiciens!
On like!
Complètement dingue le monde.
Vous voulez boire quoi?
Une bière.
Ok, et vous madame? Même chose?
Pour tous, cette affaire est un cauchemar.
Bah oui, c'est triste. Bah, vous voyez l'endroit quoi.
Des endroits pareils, c'est précieux.
Forcément que c'est précieux. Les estaminets, ça disparaît, il n'y en a plus.
Bonjour. Dites-moi tout mes chéris, vous aviez réservé? Combien de personnes? 4.
Serré comme des sardines.
Ça va aller, ça va aller.
Quand vous avez appris que ça pouvait fermer?
Bah non, c'est pas possible. Chez Monique, on est vraiment dans une bulle, on est ailleurs.
Quand on est là, c'est vrai qu'on ferme une porte et on ouvre une parenthèse. C'est ça qui est génial. On ne veut pas que ça ferme.
Et qu'on ne leur dise pas que leur Momo a fait des bêtises, leur réponse.
100 euros dans la cagnotte. Il y a des bracelets électroniques, non, en ce moment. Il y a pas mal de mecs sous bracelets électroniques en ce moment. On en connaît.
Et donc, rendez-vous demain avec la patronne de cet estaminet dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien c'est une ambiance orageuse sur la façade atlantique.
Oui, avec des orages plus fréquents qui se mettent en place entre la Bretagne et l'ouest du Massif central. Et puis on a une deuxième salve orageuse qui arrive et qui concernera l'Aquitaine en fin d'après-midi. Avec là des orages qui seront plus forts, on aura de la grêle et des pluies intenses. Pour le reste du pays, ce sera encore calme comme ce matin. Grand soleil même au nord de la Seine et sur les côtes méditerranéennes. Ciel un petit peu plus voilé pour les autres et puis on pourra avoir une averse sur le relief du Jura ou des Alpes, sans oublier le vent d'autant qui se renforce sur les plaines toulousaines avec des rafales à 80 km à l'heure.
Et des températures en hausse.
Oui, 25 degrés pour la maximale à Agen, il en fera 24 à Toulouse ou Grenoble, 23 au Mans, à Paris et à Ajaccio. Pour Lille, 22 degrés, 21 à Perpignan, 20 à Toulon, 19 à Brest et 18 pour la plus basse à Cherbourg.
Les prévisions de Céline Dacosta.